Mais bonjour, ça fait un petit temps que je suis là, mais enfin. Je vous propose un texte assez surprenant. Et j'ai toujours aimé m'affronter à ces textes surprenants. Et donc, ce texte est issu de l'évangile de Marc, et plus particulièrement au chapitre 5. Je vous propose de lire le texte. Jésus et ses disciples arrivèrent de l'autre côté de la mer, au pays de Gérasa. Comme Jésus descendait de la barque, un homme possédé d'un esprit impur vint aussitôt à sa rencontre. Il sortait des tombeaux. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Il avait été souvent lié avec des entraves, mais il les avait rompues et personne n'avait la force de le maîtriser. Nuit et jour, il était sans cesse dans les tombeaux et les montagnes, poussant des cris, se déchirant avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure, par Dieu, ne me tourmente pas. Sors de cet homme, esprit impur. Quel est ton nom? Mon nom est Légion, parce que nous sommes nombreux. Il le supplia avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, du côté de la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Des esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous dans les porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit. Ils sortirent alors et entrèrent dans les porcs. Le troupeau se précipita du haut de la falaise dans la mer. Ils étaient environ 2000 et ils s'y noyèrent. Ceux qui les gardaient prirent la fuite et rapportèrent la chose dans la ville et dans les hameaux. Et les gens vinrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque assis, vêtu et dans son bon sens. Quel titre donner à ce récit? Jésus au pays des cochons. Merci d'avoir. Ce n'est pas prévu, mais enfin. Comme je le dis. Ce récit est extrait de l'évangile de Marc. Mais pourquoi Marc a osé insérer cet épisode du ministère de Jésus? Étonnant, surprenant et quelque part relevant de l'extraordinaire. Et si au temps de Marc, de tels récits étaient courants dans la littérature, comment pouvoir partager un tel récit aujourd'hui? Si on veut le faire, je pense qu'il faut obligatoirement le contextualiser. Alors, pour accueillir une telle histoire, il nous faut trouver un chemin de lecture pour aujourd'hui qui nous dit son sens caché. Et ce texte nous apparaîtra parlant et utile pour notre chemin de foi. Admettons-le, cette histoire est quand même particulière. Où on découvre qu'une multitude de démons ont élu domicile chez un homme. Où on nous dit que ceux-ci sont chassés par un étranger de passage. Où on nous dit qu'ils se réfugient dans la peau de 2000 cochons. Et où on nous dit que ces porcs, pris de folie, se jettent dans la mer, qui était à cette époque considérée comme le lieu des forces du mal. Entrons dans le récit. Jésus avait entraîné ses disciples sur l'autre rive de la mer de Galilée. La traversée avait été très mouvementée, puisqu'une tempête s'était levée et heureusement, Jésus l'avait calmé. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi Jésus a-t-il décidé de passer sur l'autre rive? Le texte ne nous dit rien. Mais si on regarde les chapitres précédents, on peut imaginer différentes explications. La première, c'est que Jésus était confronté à une opposition très vive des religieux. Beaucoup envisageaient même son élimination. La seconde, Jésus voulait peut-être échapper à l'engouement de la foule. Beaucoup de personnes le suivaient, voyant en lui uniquement un guérisseur, un faiseur de miracles. Mais je crois que le texte suggère que la vraie raison est ailleurs. Quand ils arrivent sur l'autre rive, le texte nous dit que Jésus descendit de la barque. Et Marc, qui jusque-là a utilisé un pluriel, passe soudainement au singulier. Quelque part, il suggère que Jésus seul a débarqué. Et dans la suite du récit, il n'est plus fait mention des disciples, comme s'ils étaient absents de cet épisode de l'Évangile. Alors on peut encore se poser la question, pourquoi? On peut supposer que les disciples, on n'était qu'au début du ministère de Jésus, n'avaient pas encore une fois suffisamment affermi pour affronter des démons. Mais je pense que si Marc met le zoom sur Jésus, c'est qu'une fois encore, la raison est tout autre. Nous sommes en fait face à un récit de rencontre, d'un face-à-face, d'un cœur-à-cœur entre Jésus et un homme perdu. Et cette rencontre est le centre du récit. C'est pourquoi Marc a tenu à nous le raconter. Car c'est l'image d'une éventuelle rencontre avec Jésus si nous n'en avons pas encore fait l'expérience. Dès lors, les disciples, les habitants, les démons et les porcs ne sont que des éléments secondaires du décor. Venons-en à l'homme possédé. Je précise qu'il ne s'agit pas de nier que certaines personnes puissent être prisonnières de forces occultes, encore aujourd'hui. Ce récit, je l'ai lu, médité de nombreuses fois, et dans une lecture éclairée par mon passé professionnel. Et cela m'a amené à vous présenter un autre regard sur les faits décrits. Je souligne, et je tiens à le préciser, que je ne conteste en aucun cas, dans ma lecture, la réalité des faits rapportés par Marc. Je dis simplement que certains textes bibliques doivent être replacés dans leur temps et que le vocabulaire doit être repensé. Le texte nous dit la rencontre entre Jésus et un homme possédé. Pourquoi il est possédé? Parce qu'il présente un comportement perturbé, mais aussi perturbant. Et en ce temps-là, toutes ces attitudes hors normes relevaient d'une notification d'une possession démoniaque. Alors ma piste de lecture me conduit à dire aujourd'hui que cet homme doit être vu comme un être affecté d'une maladie mentale. Et cet état provoque chez lui un vide spirituel et existentiel. Je veux souligner aussi, de façon affirmative, que dans cette lecture, Jésus a posé un acte de guérison qui relève du miracle. En fait, ma lecture est basée sur les symptômes décrits. L'homme présente des paroles et des attitudes ambivalentes. Il a des paroles de rejet vis-à-vis de Jésus, mais en même temps, il se place dans une attitude de prosternation, d'adoration. Il parle en je, mais aussi en nous. Il est donc un être divisé, partagé, qui présente quelque part un dédoublement de personnalité. Il est à la recherche de son identité. Mon nom est Légion, mais un peu plus loin, envoie-nous. Le tableau clinique ne s'arrête pas là. Il présente d'autres symptômes majeurs. Il est médécrit, il dégrade volontairement sa personne en s'automutilant. Il manifeste une force immaîtrisable. Tous ces symptômes relèvent vraiment d'une maladie psychiatrique profonde et qui plus est, l'inscrit dans la déshumanisation. Il vit parmi les morts, à l'écart du monde des vivants. Il ne respecte pas le jour et la nuit. Il est en total décalage du temps, du chronos. Sa vie s'écrit dans la nuit des tombeaux. Sa vie s'écrit en des cris à tout vent et en parcourant le désert des montagnes. Il passe de la prostration dans son tombeau à l'agitation extrême. Il hurle sa solitude et sa désespérance. Il balance entre la mort et l'espérance de rejoindre les vivants. Disons qu'il est à moitié mort, disons qu'il est à moitié vivant. Il attente même à son intégrité physique, image quelque part de ses tentatives suicidaires. Il entre dans un repli sur soi. Et plus aucune communication n'est établie avec les autres. Sa volonté de s'enfermer est l'image d'un tombeau. Quant à ses actions perturbantes, violentes même, elles obligent ses concitoyens à tenter de le maîtriser avec différents liens physiques. Camisole de force avant la lettre. Ils sont aussi amenés à le neutraliser en le rejetant dans des lieux d'enfermement, d'aliénation, de colocation. Et ce tableau décrit en fait un exclu de la vie relationnelle, sociale. Il n'a même plus une identité aux yeux de ses concitoyens. D'homme. Jésus, lorsqu'il pose le pied sur la rive, apparaît quelque part à ses yeux comme une ultime espérance, une ultime déception. Car la question qui se pose à lui, est-ce que cet inconnu va me libérer ? Ou est-ce que cet inconnu n'est que le porteur d'une espérance sans avenir? Et il balance entre l'espoir et le désespoir, entre des paroles de rejet, une attitude de prosternation, de reconnaissance d'autorité. Jésus alors prononce une parole thérapeutique. Sors de cet homme, esprit impur. Et il poursuit en lui demandant son nom. Et la réponse qu'il donne à Jésus est une hésitation entre je et nous, montrant qu'il est toujours lié intérieurement. Et peut-être s'il hésite de donner directement son identité, c'est que le questionneur est un inconnu. Et donner son nom à quelqu'un, c'est lui donner pouvoir, autorité sur ma personne. Mais pour espérer une éventuelle guérison, un déliement, il doit donner son accord à Jésus. Mais son oui est attaché d'une ultime négociation. Ne nous envoie pas en dehors du pays. Envoie-nous dans les ports pour que nous entrions en eux. Son oui est un pas de foi en Jésus. Mais tout en maintenant, en même temps, un pied dans un passé connu, même s'il est atroce. Jésus, en posant son pied sur la rive d'un pays païen où l'économie est basée sur l'élevage des porcs, Jésus, au regard de la loi, entre en impureté. Mais ce pas, il l'accomplit pour rejoindre un homme perdu. Quelque part, il le rejoint dans ses enfers de mort afin de l'en extraire. Et cette démarche peut être à l'image de ce verset de la première épître de Pierre, très difficile à commenter. C'est alors que Jésus est allé prêcher même aux esprits en prison. L'homme de Gérasa était prisonnier de nombreux liens, décrit dans le texte comme des esprits impurs. D'autres liens dressaient des barreaux entre lui et sa communauté. Il était un exclu, confiné dans un ghetto, le ghetto des morts. Et Jésus le délie de toutes ses attaches. Et ces différentes délivrances, Marc nous le dit dans les trois positions adoptées par l'homme de Gérasa. Les gens viennent auprès de Jésus et voient le démoniaque assis, vêtu et dans son bon sens. Lui qui avait eu le démon légion. Assis. Assis, c'est dire qu'il n'est plus dans des déplacements incohérents, des actions incohérentes, courant sans but dans les montagnes, criant jour et nuit, se lacérant avec des pierres. Non, il est assis, car il est en paix. Il est assis à nouveau, réinstallé dans sa communauté, vêtu. Si l'habit ne fait pas le moine, est d'une apparence, dans une apparence dégradante, n'est en rien un facteur d'intégration. Être vêtu dignement installe dans un rang social, dans un statut qui appelle le respect et qui donne l'espérance d'un avenir. Dans son bon sens, que dire d'autre? Il a récupéré son équilibre psychique. Il n'est plus omnibulé par ses démons intérieurs. Il peut détacher son regard de sa souffrance. Assis, vêtu et dans son bon sens, lui permet de se tourner vers les autres qui vivent peut-être encore la souffrance. Un homme debout, un homme recrié. Cet homme qui était couché parmi les morts a été relevé. Cet homme qui était couché parmi les morts a été remis debout. Relevé, mettre debout, sont des verbes français issus d'un même verbe grec qui signifie aussi ressusciter. Et Jésus, en le délivrant, en le guérissant, a posé un geste de résurrection et de recréation. Car aux yeux de tous, il est ressuscité. Car aux yeux de tous, il est une nouvelle créature. Guérir de ses démons, sortir de son tombeau. Ce récit, comme je le disais au départ, n'a d'intérêt que s'il nous rejoint et nous pose deux questions. Quels sont mes démons? Quel est mon tombeau? Quels sont mes démons? Ou dit autrement, qu'est-ce qui m'habite et qui fait entrave à mon cheminement avec le Christ et vers le Christ? Quel est mon tombeau, ce lieu où je me terre afin de me cacher du regard du Christ? Quel est mon tombeau, ce lieu où je m'isole, fuyant mes frères en Christ, mes frères en humanité? Mais l'IENS, c'est peut-être un travail effréné, une activité ecclésiale relevant de l'activisme, une recherche absolue de l'argent, de biens, du pouvoir. Entrer dans un travail, dans un activisme ecclésial effréné, ne relève pas nécessairement du nombre d'heures prestées. Rechercher frénétiquement l'argent n'est pas nécessairement lié au montant de mon compte en banque. Les liens mortifères, c'est lorsque ces derniers absorbent tout l'espace de ma vie et qu'il n'y a plus de place pour le Christ, pour mes proches, pour l'autre de qui je suis le prochain. Mais liens, c'est aussi la convoitise, une rancœur tenace, un refus de pardon, un manque de compassion. Mon tombeau, mes lieux d'enfermement, c'est peut-être la maladie mentale, la dépression, le deuil. Si des thérapies médicales sont pour moi presque toujours nécessaires dans un tel processus de guérison, néanmoins, seul le Christ peut nous guérir en profondeur. Il le fait en nous tendant la main, une main souvent empruntée à un frère en humanité, à un frère en Christ. Nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent. Un temps qui nous prépare à fêter la naissance de Jésus, son entrée dans notre humanité. Et cette venue parmi nous avait pour but notre réconciliation avec le Père. Jésus est venu il y a 2000 ans pour cet homme malade, cet homme qui était perdu. Et aujourd'hui, il vient toujours pour chacun de nous. Amen.